Troisième partie de ce Radio Barque Nicolas Saint-Cluc, dans laquelle on évoque un petit peu plus la personne, ce que vous êtes, ce que vous aimez faire. Alors, vous êtes dans la politique depuis 12 ans, vous êtes avocat professionnellement. J'espère quand même pour vous que vous avez aussi de temps en temps des loisirs, que vous pouvez penser à autre chose, vous faire autre chose. Est-ce que vous avez un violon d'Ingres, par exemple, au-delà de tout ça ?
Non, parce que en fait j'ai une vie professionnelle, la vie professionnelle plus politique, plus familiale, ça fait que ça vous laisse plus grand chose en fait.
Oui, ça fait 24 heures quoi.
Ouais, on va dire que depuis l'âge de 36 ans, c'est vrai que ma vie personnelle a changé, au niveau en tout cas des loisirs. Après, je n'hésite pas à prendre des vacances, par exemple, et lorsque je pars en vacances, je coupe vraiment. Je suis avec mes enfants. Le week-end aussi, j'essaie de préserver un peu le dimanche. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Ça, il faut pas se leurrer quand on fait de la politique et qu'on a une vie professionnelle intense. On peut pas tout faire. Voilà, on peut pas tout faire, et donc les loisirs forcément, ça me nuise. Par exemple, je faisais du tennis, j'en fais plus. J'ai arrêté à peu près à l'âge de 36 ans quand j'ai été élu. Par contre, j'ai continué un peu le sport, donc un peu de sport en salle et courir avec des amis, par exemple le week-end. Voilà, donc ça c'est important.
Faut se défouler quand même.
Voilà, exactement.
C'est un métier qui nerveusement est dur.
Oui, tout à fait. Donc il faut avoir il faut se défouler. Voilà, il faut se dépenser physiquement. Et puis moi, je crois toujours à ce principe, une tête bien pleine dans un corps sain. Voilà. Et le corps sain, c'est très important parce que sinon, à un moment donné, vous perdez vos moyens. Et c'est vrai que le corps, d'aller au-delà de ses limites, ça permet de se reposer, de se recentrer. Après, j'aime bien lire aussi. Alors, j'aime beaucoup la BD. J'aime aussi lire, hein, de temps en temps. Alors, j'ai lu beaucoup de revues scientifiques. Voilà, ça par contre, c'est vrai que c'est un dada. Les sciences, j'adore les sciences. Voilà, j'aime beaucoup les sciences et j'aime beaucoup l'espace. Pendant Noël, vous voyez, ma mère m'a offert un télescope. J'en avais vu quand j'étais ado.
Un vrai télescope.
Un vrai télescope. Et là, je commence à m'y mettre. Cet été, on a eu un ciel magnifique. Mars n'a jamais été aussi près de la Terre. Je crois que la prochaine fois, ça sera dans 25
ans. Et vous avez vu Mars?
Je l'ai vu. Alors, j'avais pas encore le télescope, mais je le regarde déjà avec des jumelles. C'était pas mal. Mais là, il me tarde de le voir. Et c'est vraiment pour moi, c'est un dada. Voilà. Donc, je suis aussi tout ce qui est scientifique. Ça me plaît beaucoup. Alors, c'est très différent du droit.
Ah oui, justement. Mais, j'allais dire.
Mais l'espace me passionne. Ça m'a toujours passionné de me dire que voilà, il y a d'autres choses ailleurs, de savoir qui on est, où on va, pourquoi. Enfin, toutes ces questions.
Ça alimente, j'imagine, votre interrogation sur la vie humaine, sur ce qu'on est.
Tout à fait, sur ce qu'on est. Voilà. Est-ce qu'il y a un sens? Voilà. Est-ce que pourquoi on regarde justement le ciel? Est-ce que le fait que l'humanité ait envie d'aller ailleurs pour se reproduire ailleurs, est-ce que ça a un sens? Est-ce que voilà. Je l'ai vu par exemple quand on a eu là le robot qui s'est posé sur Mars, beaucoup de gens ont dit mais pourquoi ça sert à quoi? C'est beaucoup d'argent dépensé. Moi je pense qu'on a perdu beaucoup de temps au contraire. Parce que quand on a vu que l'homme s'est posé sur la Lune et qu'il ne s'est plus rien passé pratiquement après, alors qu'on aurait dû déjà avoir des bases lunaires, on aurait pu déjà faire des voyages peut-être vers Mars ou d'autres planètes depuis bien plus longtemps. Et la connaissance des autres planètes et de l'univers nous permet de comprendre aussi notre propre monde. Par exemple, Mars, ça va permettre de comprendre pourquoi cette planète qui, à un moment donné, a eu de l'eau n'en a plus. Est-ce que notre modèle, si on continue, à quel moment la machine va s'enrayer et ça va devenir exponentiel et tout d'un coup, toute vie peut s'arrêter sur Terre? À quel moment? Donc tout ça, on le comprend aussi par l'exploration spatiale. Et c'est vrai que l'exploration spatiale, elle a permis aussi beaucoup de découvertes scientifiques. Qui après ont des utilités
par exemple, sur
Terre.
Les satellites qui tournent autour de
nous. Et les ordinateurs, les premiers ordinateurs qui ont servi justement pour les voyages spatiaux et qui après ont eu beaucoup d'autres utilités. Donc tout ça est lié. Moi je pense qu'il y a un sens. Si l'homme a envie de voler depuis toujours, si l'homme regarde les étoiles et s'il s'interroge, eh bien c'est parce qu'il y a un sens. Voilà, il faut se dire que on veut échapper à notre condition purement animal. Et donc, c'est important
On regarde les étoiles.
Tout à fait.
Et la grande question que vous soulevez, là, c'est est-ce que la science peut s'arrêter? Est-ce que l'envie de découvrir peut s'arrêter?
Moi, je ne le pense pas, non. Voilà. L'homme, enfin, moi je sais que j'adore.
Vous disiez, on a arrêté la conquête spatiale pendant 40 ans.
Oui.
C'était des raisons plus politiques que scientifiques.
C'était des raisons de guerre, oui, de guerre, tout simplement. Oh, c'est-à-dire, on préférait essayer de faire des satellites. La guerre des étoiles, hein.
Oui, c'était politique.
C'était très cher, c'était politique.
Géopolitique.
C'est-à-dire, on perd du temps à se faire la guerre entre nous, alors qu'on est issus, des humains, hein, sur Terre, une Terre qui est finie, c'est un petit vaisseau, en fait, la Terre. Hein. Et finalement, on perd son temps à se faire la guerre, à se détruire, au lieu d'utiliser notre énergie et nos connaissances pour des choses bien plus importantes.
Oui, mais ça, c'est une autre question. Est-ce que l'homme
est capable de se dépasser, de dépasser ce qu'il est, c'est-à-dire ses hormones, ses passions, ses ambitions, voilà. Parfois, on dit qu'on a le logos et le pathos, hein, donc la pensée et les émotions, et malheureusement, on est souvent trop sur l'émotion et pas assez sur le logos. Mmh. Après, est-ce qu'on a envie aussi d'être que sur la pensée? Je sais pas. Mais tout ça, c'est des questions qui me passionnent.
Qui vous taraudent un peu, quoi.
Qui me taraudent, oui, bien sûr.
Oui, oui. Et justement. Et alors, vous parliez. Vous êtes depuis toujours. Donc, alors, on peut penser aussi, vu ce que vous venez de dire sur le plan scientifique, que vous n'êtes pas religieux.
Non, je suis pas religieux. Par contre, je ne suis pas fermé. Voilà, mon épouse, par exemple, elle est croyante.
Donc vous êtes tolérant.
Ah, je suis. Ah, c'est une des premières. J'ai été élevé en fait en partie aussi par ma grand-mère qui était très très croyante. J'ai été à l'église jusqu'à l'âge de 14 ans pratiquement. Elle est 11 ans de manière régulière tous les samedis à l'église. Donc j'ai quand même cette culture. Mais en fait, je me pose toujours beaucoup de questions. Je suis assez cartésien et donc je crois bien sûr qu'on fait partie peut-être de l'espace, c'est peut-être un autre être vivant. D'ailleurs, je trouve que l'espace, plus on le connaît, plus on s'aperçoit qu'il y a des connexions entre les galaxies, il y a des fils, hein, entre les galaxies, il y a des amas et ça ressemble presque à un cerveau. Donc on fait peut-être partie d'un être, d'un être qui fait lui-même partie d'un autre être. Et donc c'est important de se poser des questions et de se dire que, mais après je ne crois pas au Dieu tel qu'on nous le présente. Voilà, oui. Avec tous les défauts et les qualités finalement des hommes.
Vous ne demandez pas si sur la planète Mars il y a un dieu.
Non, je ne me demande pas ça. Non.
Vous êtes également donc très engagé politiquement à gauche depuis toujours. Vous faites partie des gens qui sont restés au Parti socialiste lorsque ça tanguait pas mal.
Tout à fait.
Je crois que vous.
Tout à fait. Et alors, vous savez, ceux qui en partent souvent, ils ont toujours de bonnes raisons. C'est comme quand on change de camp ou on est un traître, on a toujours de bonnes raisons pour avoir commis une traîtrise. Moi, j'essaie de rester toujours sur mes fondamentaux. Voilà, je suis pour le partage, je suis pour la solidarité, et donc c'est des valeurs que je défends. Moi, j'estime que on n'est pas tous égaux, que on n'a pas tous les mêmes chances dès le départ, et qu'il suffit pas de se lever le matin ou de traverser la rue pour avoir un travail. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà la vraie vie. Et on le voit de plus en plus, les inégalités aujourd'hui aussi sont énormes, hein, sur notre planète. Elles n'ont jamais été aussi importantes. Il y a des gens très puissants, on en a d'ailleurs discuté tout à l'heure, hein, des gens très très puissants. Il y a quelques personnes, quelques GAFA, hein, qui dominent le monde. Et le politique a de moins en moins de pouvoir. Et d'où l'éloignement d'ailleurs des gens, hein, de la politique. Hein. Pourquoi les gens ne vont plus voter? Parce qu'ils ont l'impression que finalement les femmes et les hommes politiques n'ont plus de pouvoir sur leur environnement et sur leur mode de vie. Et c'est ça qui est triste.
Donc
alors qu'on doit reprendre le pouvoir.
C'est une forme de désespoir un peu, ça.
Bien sûr, c'est une forme de désespoir. Et de laisser aller. Mais c'est pour ça qu'il faut se battre contre ça. Et moi, si je fais de la politique, c'est justement parce que j'ai pas envie de baisser les bras. J'ai envie d'être maître de mon destin. Et on doit tous être maître de notre destin collectivement. Voilà. Et personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. On est tous égaux. Et ça, c'est fondamental pour moi.
Et vous parliez tout à l'heure de... Alors, vous partez quand même en vacances en famille, Nicolas Saint-Cluc. Et je crois qu'il n'y a pas très très longtemps, vous êtes allé en Afrique du Sud.
Oui.
Alors, c'est peut-être pas banal comme voyage, parce que c'est loin, mais il y avait peut-être une arrière-pensée, vous, l'engagé politique.
Ben c'était, alors déjà, c'est mon épouse qui m'avait fait la surprise. Et puis, d'amener les enfants, c'était de leur faire voir aussi ben, ce que c'était que l'apartheid, voir ce que c'était que les différences. Donc, c'est très beau, l'Afrique du Sud, hein, c'est le pays des contrastes.
Oui, en tant que pays.
Très,
oui.
Très beau. Mais quand on y est, d'ailleurs, c'est eux qui ont vu certaines choses, peut-être encore plus criantes que moi. Quand vous voyez les fils barbelés qui entourent les quartiers des Blancs.
Qui y sont encore?
Ah, qui sont plus qu'encore. Même, il faut savoir que même dans les ghettos, par exemple, lorsque vous avez un magasin, vous êtes noir et vous avez un magasin, vous êtes obligé d'avoir des grilles partout, fermées à double tour. Enfin, c'est Fort Knox. Parce qu'effectivement, il y a une insécurité impressionnante. Et malheureusement, il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire là-bas. Après, il y avait aussi le deuxième aspect, c'était les animaux.
Ah oui,
moi, j'aime beaucoup
sûr.
Les animaux.
Les safaris,
quand j'étais jeune aussi, j'avais fait un safari avec ma maman au Zimbabwe avant que la période aussi de renversement politique, c'était très très violent, hein, le Zimbabwe, hein, c'est un tout petit pays donc au sud de l'Afrique et donc ça m'avait beaucoup plu, safari photo bien entendu, hein, et voilà, les animaux aussi, savoir qu'on est issu aussi de l'Afrique, c'est vraiment particulier le sentiment que l'on a lorsqu'on se balade au milieu de ces animaux, on se sent pas grand chose, en même temps on fait partie. Vraiment, on a l'impression de vivre encore plus fort intensément.
Oui, on se sent animal dans ces cas-là.
On se sent un peu animal, oui, tout à fait, parce que quand vous êtes en voiture, non, parce qu'il ne vous voit pas,
oui.
Vous êtes un objet, et dès que vous êtes debout, vous êtes un prédateur. Mmh. Vous êtes vécu comme un prédateur par les animaux, mmh. Tout de suite, parce que vous avez cette position debout et le regard, tout de suite, c'est plus pareil.
Voilà, c'est ce que vous êtes, quand vous êtes revenu d'Afrique du Sud, c'est ce que vous aviez glané en quelque sorte,
oui.
Dans votre intellect. Merci en tout cas, Nicolas Saint-Cluc, d'avoir fait un petit peu le tour aussi de ce que vous êtes, de ce que vous aimez. Le prochain invité de Radio Barque sera Michel Jamme, le maire de Sigean. Après quoi, bien, divers invités suivront, comme c'est la coutume. En tout cas, merci à vous, Nicolas Saint-Cluc.
C'est moi qui vous remercie.
Merci aux auditeurs d'être restés en notre compagnie. Et évidemment, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.